Bonsoir Josiane Belasco.
Bonsoir.
Bienvenue à la librairie Mola. On est avec vous pour le dernier sanctuaire qui est sorti aux éditions Calman Levy. Jusqu'où est-ce que vous pourriez aller pour défendre vos convictions?
Attendons les prochaines élections.
Et une fois qu'elles seront passées, est-ce que...
Là, on pourra prendre position d'un côté ou de l'autre. Mais là, avant, on ne sait pas trop, parce que quand même, on ne sait pas trop.
Mais aujourd'hui, jusqu'où vous pourriez aller? Parce que vous, quand même, vous sortez un livre là dans lequel vous présentez des héros qui sont capables d'aller assez loin.
Je ne sais pas si je serai assez, aussi courageuse qu'eux. Bon, j'irai à des manifs en espérant qu'ils ne tapent pas sur les vieux. Enfin, disons, sur les personnes. Je me comprends. Je sais pas, on peut signer des pétitions. Enfin, pour moi, le vrai courage, c'est le mec. Bon, l'image du courage même, c'est le mec qui était devant le char sur la place Tiananmen. Voilà, c'est ça l'image du courage. Donc, bon, il est mort de toute façon.
Et l'héroïsme, est-ce que l'héroïsme, vous pensez que c'est un truc qui s'invente en nous quand à un moment donné, ce qui se passe autour de nous dépasse notre entendement?
Mais je crois qu'on peut être héroïque sans s'en rendre compte, hein, aussi. D'un seul coup, il y a une pulsion qui fait qu'on va sauver des enfants dans le feu ou en train de se noyer. Ou... Il y en a déjà qui meurent en même temps. Hein, ça, c'est un héroïsme fatal. Mais ça peut être... C'est pas raisonné. Je sais pas si c'est raisonnable, mais en tout cas, c'est pas raisonné.
Et vous, pourtant, vous décidez d'écrire un livre sur lequel vous nous emmenez dans une histoire écrite au TNT, quand même, hein, parce que ça pulse pas mal, sur cette idée de résistance.
Mais au départ, je ne sais jamais ce que je vais raconter. Alors, je voulais juste, au départ, sans prétention, faire un roman d'aventure où mes héros auraient affaire à plusieurs, traverseraient plusieurs péripéties dans lesquelles il leur arriverait des événements plus ou moins violents, plus ou moins. Et puis, au fur et à mesure, ben, les choses arrivent, les personnages arrivent, et c'est eux qui vous disent où aller. C'est pas moi qui. C'est à partir du moment où vous les dessinez, et ben, ils vous conduisent. Donc à partir du moment où ça a commencé mon idée du bouquin a commencé quand Trump a fait un premier décret durant son premier mandat pour permettre aux chasseurs de tirer les ours pendant l'hibernation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque, là ils dorment, donc on peut les massacrer à l'aise et poser pour la photo ensuite. Tout ça étant payé très cher. Hein. Les gens qui font des trophées comme ça, c'est des centaines de milliers de dollars. Donc, il a fait ça pour ses potes, hein, parce que je ne vois pas pour qui il le ferait d'autre. Et je me suis dit, quelqu'un qui peut être aussi maléfique, parce que je pense que c'est être maléfique et stupide, imaginons qu'on soit dans un pays qui est régi par des lois aussi maléfiques et stupides, on s'aperçoit que je n'ai pas eu à imaginer beaucoup, parce que c'est ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passerait si d'un seul coup toutes les associations de défense de la nature, de l'environnement et même du droit des personnes et tout ça étaient mises au banc de la société, étaient poursuivies, leurs membres arrêtés, éventuellement exécutés, les lanceurs d'alerte emprisonnés? Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait? Bon, il se passe aux États-Unis, là, je vous dis un chiffre comme ça, le nombre des morts de jeunes femmes accouchant depuis qu'ils ont banni l'avortement a augmenté de manière significative. Je veux dire, tout ça, ça fait partie du même processus. Et donc, mes personnages ont survécu. Ce sont des survivants, c'est-à-dire que leur petit sanctuaire de montagne où ils protégeaient les espèces en voie de disparition, les ours, les loups, les renards, enfin toutes les marmottes, tous les animaux qui peuvent peupler la montagne, a été effectivement interdite. Donc, ils se sont terrés. Ils ont perdu toute identité. Officiellement, ils n'existent plus. Ils n'ont plus aucun moyen de communication numérique, en tout cas pour qu'on puisse les repérer. Et ils survivent. Ils survivent comme ils peuvent, en chassant. Ils n'ont pas d'armes, à part des arbalètes et des arcs et des flèches. Leur seul moyen de communication, c'est un corbeau qui s'appelle Hermès. Et c'est une radio qui s'appelle Cassandre, parce qu'elle annonce que des mauvaises nouvelles. Voilà, c'est une vieille radio qui marche. Et ces gens-là se taire, continuer à espérer. On ne sait pas, ils savent même arrêter de se battre. Je pense qu'ils ont arrêté de se battre. Ce sont des gens très différents qui se sont retrouvés là. Il y a notamment un ancien biogénéticien. Il y a des gens qui viennent de Greenpeace. Il y a une fille qui était dans un sanctuaire, qui est une Africaine, qui a échappé, qui est la dernière survivante d'un sanctuaire qui protégeait les derniers rhinocéros d'Afrique, enfin bon, du Kenya. Donc il y a des gens très différents qui se retrouvent là. Il y a un jeune garçon qui est le fils de la vétérinaire et de son mari, le mari ayant été tué par les gardes forestiers qui protègent les chasseurs, bien sûr. Et ce jeune garçon va rencontrer, ça commence comme ça, il va rencontrer une vieille femme dans la nuit, alors qu'il est de garde. Il fait très froid, c'est l'hiver, dans la montagne. Il va rencontrer une vieille femme aveugle, une vieille indienne, amérindienne, qui a traversé 150 km à pied, qui ne voit rien, mais qui a un don de double vue. Et qui veut absolument, qui a un but, c'est de venir dans cet endroit. C'est de rencontrer quelqu'un. Et cette rencontre avec tous ces gens va commencer à transformer leur vie. Il y a une deuxième rencontre qui va se faire, c'est que l'un des protecteurs, qui est un ancien chasseur, qui est un ancien tueur, qui a toujours des instincts de tueur, mais qui les maîtrise quand même assez, va, pour défendre sa communauté, va kidnapper une jeune fille. Et cette jeune fille est la fille du type le plus... de Elon Musk, voilà, par exemple. Si Elon Musk avait des sentiments, un peu, parce qu'il a quand même des sentiments. Donc, c'est la pire chose qui peut leur arriver. Parce que le père va vouloir tout faire pour la retrouver. Et ces deux éléments, cette vieille femme qui va arriver, qui a en sa possession un trésor qui n'existe plus, et ce trésor, il tient dans un petit sac en peau joliment décoré de peinture traditionnelle, et dans ce sac, il y a des graines pures qui n'existent plus. Et elle a fait 150 bornes pour pouvoir les donner au chef de cet ancien sanctuaire qui a été un botaniste réputé, un biogénéticien, et qui saura quoi en faire. Voilà, ça commence comme ça. Ça commence comme ça, et c'est au fur et à mesure qu'on découvre les idées, c'est les personnages, avec qui ils seront, qu'est-ce qu'il va y avoir dans leur groupe, les mélanges de genres, les mélanges de couleurs, les mélanges d'univers, comment vont-ils s'en sortir, qui sait faire quoi. Les jumeaux qui viennent de Greenpeace, eux sont d'origine chinoise et ils sont extrêmement bricoleurs, par exemple. Donc, eux savent faire des tas de trucs. Enfin, tout le monde a un but très précis dans ce groupe de 11 personnes.
Qu'est-ce que vous aimez chez eux ?
Je les aime bien, mais ils sont sympas, moi, je trouve. On peut leur faire confiance, voilà ce que j'aime. On peut leur faire confiance. Ils ne sont pas toujours faciles. Il y en a qui sont bougons, d'autres qui vont directement le repenti. Percy, lui, est franchement désagréable tout le temps, mais bon, on est habitué à lui. La vétérinaire est pleine d'empathie. Ils ont chacun leur trait de caractère qui fait que ensemble ça va fonctionner. Parce que c'est ça la dynamique de groupe, c'est du plus et du moins aussi. Et ensemble, ils vont fonctionner.
Et puis il y a Thomasa, vous en avez parlé, c'est cette vieille femme qui est aveugle et qui est très clairvoyante aussi, qui voit.
Qui a un don double vue, oui.
Puis qui fait de la télépathie avec le vivant, c'est-à-dire qu'elle peut être tout d'un coup dans l'esprit d'un oiseau ou d'un renard, donc elle peut se déplacer autrement.
Oui, parce que j'aime bien la magie, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir de la magie dans un monde de brut. Voilà, je crois que plus le monde est brutal, plus la magie est le dernier endroit où on peut se rêver et s'évader. C'est ce qui se passait au Moyen-Âge quand des femmes faisaient de la magie, c'était pas des sorcières, c'était juste des gens qui essayaient de s'évader. Et sa magie, elle est aussi empreinte d'animisme, puisque dans les peuples premiers, souvent partout dans le monde, les peuples premiers, et aux États-Unis notamment, ont un grand respect et une grande communion avec une communion sacrée, pratiquement avec le végétal, et avec le minéral, mais aussi le végétal et l'animal, bien sûr. Ce sont on a souvent appelé ça ou tenu ça pour des superstitions. Or, maintenant, la science est en train de prouver que les arbres ressentent, que les arbres peuvent communiquer certains, pas des émotions, mais certaines sensations qui peuvent correspondre entre eux. Donc, je veux dire, plus on va affinant nos connaissances, plus finalement on rejoint les connaissances des anciens. Et c'est ce qui se passe avec cette femme. Le don qu'elle a qui ne s'explique pas, c'est qu'en se concentrant très fort, elle peut rentrer dans la tête d'un aigle et voir avec ses yeux puisqu'elle ne voit plus, par exemple, ou d'un corbeau.
Il y a quelque chose d'un peu chamanique dans ce personnage. Vous avez un rapport au monde qui est celui-là aussi ?
Non, moi j'aimerais bien. J'aimerais bien. Je parle à mon chien comme tout le monde, mais il me répond pas. Enfin, il me répond d'une certaine manière. Il me répond.
Mais vous avez un intérêt pour ça aussi, pour peut-être ce qu'on ignore ou ce qu'on ressent et qu'on ne sait pas traduire, ce sur quoi on ne met pas de mots forcément.
Oui, c'est toujours. Moi, je trouve ça intéressant de parler de choses qu'on ne comprend pas, parce que ça, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi cette vieille femme a ce don, un don qu'on ne reconnaît pas, qui n'est pas reconnu nulle part. Et je ne suis pas là pour défendre en disant il y a des gens qui voient. Non. Je connais personne qui peut lire dans les pensées à part des numéros extrêmement bien, Mireille Mirovska, extrêmement bien préparée. Pour moi, c'était l'aide qu'elle va apporter à ces gens. Elle est l'aide qu'elle va leur apporter, l'aide de la magie, de la magie de la terre.
Voilà. Parce que la terre, les animaux, enfin, c'est presque un personnage hein, dans votre livre d'abord. La grande partie du livre se passe en hiver, il fait très très froid, puisque donc nous ne sommes pas en France.
Non, nous ne sommes pas en France. Quand j'ai commencé à écrire l'histoire, je l'avais situé effectivement dans un pays avec des grands espaces, dans un endroit, une montagne énorme, avec des climats extrêmement rigoureux l'hiver. Et je me disais, où est-ce que je vais le situer? J'ai besoin pour moi de situer cet endroit, de savoir où ils sont. C'est trop important, puisqu'ils vivent dans un pays où les lois ont été complètement d'échanger, où il y a on sent que c'est une sorte de dictature. Où est-ce qu'ils vivent? Et bon, en Europe, non. Mais en Europe, il n'y a pas ces grands espaces. En Russie, non, je ne les voyais pas en Russie. Je ne les voyais pas, écrivant en français, des Russes, vous voyez, faire du... Non, je ne savais pas. Et puis je me dis, l'endroit qui est le plus évident, c'est parce qu'il est le plus grand, c'est les États-Unis. Mais ça m'embêtait énormément de faire parler des gens français, des grands français, des gens américains. Voilà. Et puis, je me suis souvenu d'une nouvelle, enfin, j'avais découvert dans les livres d'histoire un truc qui m'avait fait bicher, comme on dit anciennement, et kiffer, comme on dit maintenant. C'était que Napoléon avait vendu la Louisiane. Napoléon Ier a vendu la Louisiane pour avoir de l'argent pour faire la guerre aux Anglais, qu'il a perdu d'ailleurs, mais en tout cas, il l'a vendu. Parce que c'était un territoire qui, finalement, l'intéressait plus ou moins, qui coûtait plus que ce qu'il ne rapportait. Et un jour, je suis allé découvrir, grâce à Monsieur Google, ce qu'était la Louisiane. Eh bien, la Louisiane, c'était pas du tout l'État de Louisiane. La Louisiane était une terre qui occupait la moitié des États-Unis actuels. Donc, qui traversait dans la longueur les États-Unis d'une côte à l'autre, vous voyez, d'est en ouest, pratiquement. Et juste à côté, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la Nouvelle-France, qui était le Québec, qui était aussi français. Et je me suis dit, bon sang, moi je me disais, s'il ne l'avait pas vendu, je pourrais y aller chez moi, je serais chez moi là-bas. C'est moi qui aurais assassiné les Indiens, ce n'est pas les Américains. Parce que c'est ça, il faut le dire, hein. On a aussi assassiné des Indiens, il n'y a pas de raison, puisqu'on a été là-bas. Et donc, je me suis dit, on va faire une dystopie. Napoléon n'a pas vendu la Louisiane aux Anglais, non pas parce qu'il voulait, pas, mais parce qu'il a eu une congestion cérébrale avant et que, paf, juste avant de vraiment concrétiser cette affaire, paf, il a passé l'arme à gauche. Donc, la Louisiane est restée la Louisiane, avec sous commandement français. Ça a plus ou moins périclité. Il y a eu une révolution, la révolution des alligators, parce qu'elle a commencé dans le Bayou, voilà. Et ils sont devenus indépendants, mais en gardant des traditions françaises, des certains tas de noms français. D'ailleurs, aux États-Unis, dans l'État de Louisiane, il y a beaucoup encore de noms français. Il y a les Cajuns qui parlent plus ou moins français. Et ils se sont associés avec la Nouvelle-France, c'est-à-dire le Québec. Et ça faisait un territoire de 12 500 000 km², ce qui est quand même beaucoup. Donc je me suis dit, là, j'ai la place pour faire vivre mes personnages. Voilà. C'est comme ça que... Mais la dystopie, c'est une manière de les faire vivre, mais c'est pas... Je veux dire que ce dont je parle est arrivé déjà. Ce dont je parle, le contrôle des semences, c'est là. Mais comme contrôle, il n'y a pas un fermier aux États-Unis qui a le droit de planter une graine qui n'y ait pas été vendue par la big agriculture, par l'agriculture, les grosses boîtes d'agriculture. Ça n'existe pas. Toutes ces graines sont stériles. C'est-à-dire qu'on les plante, elles poussent une fois, et il peut les revendre ou les donner en fourrage, et après, il faut en racheter. Je crois que ça, ici aussi, il doit y avoir des trucs comme ça. Et alors, je me suis posé la question, toujours, ça se fait poser des questions, mais on ne se les pose pas tout de suite. Donc, j'ai demandé à mon agente littéraire, Nila Sewell, est-ce que tu connais des gens qui travaillent dans l'agronomie, qui puissent me renseigner? Et effectivement, il y a des plants, il y a des graines qu'on appelle les terminators, qui sont des graines de compétition, qui sont capables de stériliser toutes les graines qui sont autour. Voilà. Donc, je me suis dit, s'il y a des terminateurs, il doit y avoir le contraire, c'est obligé. S'il n'y a pas le contraire, si des mecs ont passé des années pour mettre au point ça, on peut très bien mettre au point le contraire. Et j'ai inventé une graine fertilator. Plutôt optimiste, en me disant, cette graine-là, on la sème et elle va fertiliser tout autour d'elle. Elle va niquer les fertilators. Voilà. Donc, ça fait partie des bonnes choses qui peut y avoir, qui peut arriver, qui vont arriver à mes héros.
Et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a quand même vraiment une espèce de plongée dans le monde dans lequel on est. Vous nous secouez un peu au passage, quand même, notamment par la science aussi. Alors, il y a de l'agroalimentaire, il y a de la science, puisqu'il y a des animaux qui sont finalement des personnages à part entière dans votre livre.
Oui, il y a des loups notamment. Il y a un personnage de biogénéticienne qui fait des études sur les loups, sur les ours, qui est payé par la Big Pharma pour fabriquer des animaux dociles, donc dociles à être chassés, et elle va fabriquer le contraire. Elle va fabriquer des animaux qui se régénèrent extrêmement vite, qui sont 5 ou 6 fois plus intelligents que des animaux normaux de leur espèce. Voilà, ça, elle va le faire. Elle va faire autre chose aussi, mais ça, bon.
Elle va faire autre chose. Et il y a des cerbères aussi qui sont des chiens robots. Enfin, voilà.
Pour les cerbères, ça existe. Hein. C'est global. Ça s'appelle Global Dynamics. Si vous allez sur le net, sur la toile, vous allez voir des chiens de fer qui sont utilisés, qui peuvent être utilisés par l'armée. Voilà.
Alors, en fait, tout cet environnement-là, vous avez demandé à votre éditrice, mais est-ce que au départ, vous êtes quelqu'un qui lit beaucoup l'actualité? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui se renseigne beaucoup? Est-ce que de toute façon, vous êtes vraiment proche de cette réflexion permanente? Ou est-ce que au contraire, vous lâchez l'affaire?
Ça me prend par à coup. Ça me prend par à coup.
C'est-à-dire?
J'ai envie d'écrire quelque chose et d'un seul coup, tout va se mettre en. Je vais faire de la récupération de tout ce que je sais. Voilà, je récupère, je recycle. Voilà. Tout ce que je sais, effectivement, je regarde beaucoup les infos, ce qui n'est pas toujours le moral à l'aise, hein, les infos. Je regarde aussi les infos sur les réseaux, parce qu'il y a du bon et du mauvais. Il y a des infos qu'on a sur les réseaux qu'on n'aura jamais ailleurs. Voilà.
Il y a une vision de la jeunesse aussi qui est intéressante dans votre livre, parce qu'il y a deux personnages qui sont assez jeunes. Il y a Lucie qui est enlevée, puis il y a un autre personnage qui s'appelle Pacôme, qui est un jeune homme qui, lui, n'a jamais connu la vie en liberté.
Non, il a toujours vécu avec ses parents. Il a toujours vécu comme un résistant, comme un petit soldat. C'est un petit soldat. D'ailleurs, quand il a l'occasion de partir, il partira pas. C'est un petit soldat qui n'a rien connu de la vie, à part la brutalité de l'environnement, des descentes de forestiers qui les forestiers sont des gardes armés qui protègent les chasseurs et qui leur font la part belle, quoi. Donc, il a rien connu. Et il y aura pas. Alors, c'est pas un livre où il y a des histoires d'amour. Hein, je vous le dis tout de suite. J'ai pas eu le temps.
C'est plutôt un Red Bull littéraire, un peu.
Voilà, ma fille en lisant le livre m'a dit, maman, c'est un peu embêtant que un des héros n'embrasse pas, ne roule pas une pelle à la fin, a-t-elle.
Elle aurait bien aimé votre fille.
Oui. Alors, du coup, j'ai pas totalement accédé à sa demande, mais j'ai laissé une petite ouverture, comme aurait dit Michel.
Voilà. Ça va laisser une ouverture, exactement.
Voilà.
Mais quand même, cette histoire de jeunesse, j'y reviens parce que Lucie, ce personnage, donc cette fille de milliardaire...
Ouais, c'est une sorte de Paris Hilton, quoi.
Exactement. Elle est enlevée et bah, vous la dépeignez comme une fille qui n'existe pas à part les réseaux sociaux. Et puis, dans l'histoire, on va pas déflorer l'histoire, mais elle prend quand même conscience de plusieurs choses en cours de route. Elle se réveille, quoi. Elle sort de sa bulle pour arriver dans la réalité. Ça, c'est une des questions qui vous intéresse.
Mais c'est toujours les récits initiatiques, c'est-à-dire qu'elle va parcourir, elle va faire un chemin, elle va physiquement faire un chemin. Elle va aller d'un point à un autre, au départ elle y est obligée, et après elle va le vouloir. Ce chemin pour retrouver sa mère qui a disparu quand elle était toute petite. Et c'est sur ce chemin, c'est en cheminant qu'elle va comprendre, va commencer à comprendre, parce que c'est lent, que les mauvais sont pas forcément ceux qu'on leur a dit, qu'on lui a dit, quoi. Voilà.
Et comme vous dédicacez votre livre à votre frère qui visiblement vous a mis sur la piste de la bibliothèque verte et donc des grandes aventures, c'est quoi les récits initiatiques qui ont forgé la lectrice que vous êtes alors vous?
J'en sais rien. Ça allait des bandes dessinées italiennes de Hakim, Prince de la Jungle, jusqu'à effectivement Cro-Blanc. Les bouquins de James Olivier Curwood, L'appel de la forêt, Michael Chassir, tout ça, et Jules Verne. Et puis aussi, tous les bouquins à l'époque, moi j'ai eu, finalement, je dirais, j'ai eu la chance de naître sans écran, oui, c'est une chance, mais finalement. Je suis né sans écran, donc la seule évasion possible qu'on avait, c'était de lire, c'était la lecture, c'était les images écrites, au départ les images, c'est-à-dire les bandes dessinées, puis après la lecture. Moi je rêvais d'une chose, c'est de savoir lire. Quand j'étais petite, je faisais semblant de lire. Après, j'ai appris à lire. Donc, c'était la vraie manière de s'évader, c'était la lecture. J'ai lu plein de choses. Voilà. Puis j'ai eu la chance de vivre dans un environnement qui n'était pas forcément un environnement habituel. C'était un bistrot, donc avec beaucoup de gens qui rentraient. Et donc, à chaque fois, les gens qui rentrent, c'est formidable. Donc, je recycle, on les retrouve aussi dans certains de mes personnages.
Ah oui, là, il y a des personnages qui sont inspirés de personnages du bistrot
de ce qu'ils ont pu dire. De ce qu'ils ont pu dire, oui.
Par exemple ?
Par exemple, il y a un copain qui a lu le bouquin qui dit « On dirait que tu as fait l'armée. » Il dit « Non, j'ai pas fait. » Mais par contre, on avait un ouvrier qui venait manger dans le tout petit bistrot de mes parents qui faisait des plats emportés parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cantine à l'usine Renault. Les mecs apportaient leur gamelle. Enfin, c'était les ouvriers qui apportaient leur gamelle qui faisaient réchauffer. Donc, mes parents faisaient de la nourriture pour mettre dans les gamelles. Et c'était un ancien légionnaire, et il parlait toujours de ses expériences de légion, et il disait que c'était très dur, la légion, parce que quand ils avaient à faire une punition, il fallait faire des pompes en plein soleil, parce que souvent c'était en Algérie ou dans les pays chauds ou en Indochine, en plein soleil, en disant « Mon Dieu que c'est beau, la vie de château, mon Dieu que c'est beau, pourvu que ça dure ».
Et donc, effectivement, est une phrase.
Et c'est une vraie phrase. Les mecs, ils devaient faire ça 100 fois. Mon Dieu, que c'est beau, la vie de château. Oh. Voilà.
Et la phrase qui dit « Pour pouvoir gagner, il faut d'abord apprendre à savoir perdre », qui est dans votre livre, elle vient d'où ?
Ah bon, elle vient du fin fond de ma tête. Ça, je ne sais pas où je l'ai eu. Là,
Alors, elle vient du fin
fond de votre... Mais je pense que c'est vrai.
Alors, c'est-à-dire ?
Parce que moi, je suis très mauvaise perdante, par exemple.
Ah, c'est pour ça, ça viendrait de là, alors.
Oui, non, parce que, surtout aux cartes. Dans la vie, on est obligé de savoir perdre. Sinon, si on ne sait pas perdre, on est foutu. J'ai très mauvaise joueuse aux cartes. Il faut demander à mon mari, quand je joue aux cartes, on a acheté de nombreux jeux de cartes. Parce que je déchire les cartes. Quand je perds, il y a des jeux, c'est des jeux de genre réussi, des trucs comme ça, quand je perds, et il me dit, tu terrorises les cartes.
Mais du coup...
Physiquement, je terrorise les cartes pour qu'elles sortent à mon avantage. Et je déchire les cartes quand je suis pas contente. Il me dit non, arrête, on a encore un jeu de cartes foutu. Voilà, alors je me dis là, je ne sais pas perdre et je déchire. Par contre, si je savais perdre, si quand tu sais perdre, tu gardes des choses, rien n'est déchiré, rien n'est détruit. Voilà.
Mais dans la vie, vous savez perdre.
Dans la vie, oui, je sais perdre.
Ça, vous avez beaucoup d'échecs dans votre vie?
Bon, comme tout le monde, je pense que...
Non, mais vous, je parle de vous.
Comme tout le monde, toujours, je sais pas, j'ai pas de... Moi, à chaque fois que j'ai perdu un truc, j'en ai gagné un autre, c'est ce qu'il faut se dire, hein. C'est que quand on perd un truc, d'un côté, on en gagne un autre de l'autre.
Et est-ce que vous avez eu l'impression dans votre vie d'être résistante, de vous battre?
Ah oui, résister, oui. Parce que je suis partie de la génération post-68, je suis née en 50, donc c'était la contre-culture, c'était les slogans, soyons réalistes, demandons l'impossible, pour baiser le système, il faut être à l'intérieur. Moi, j'ai toujours eu ça dans la tête, pour baiser le système, il faut être à l'intérieur. Parce que mes copains me disaient, il faut s'inscrire au PC, comme ça on va dynamiter le PC, à l'époque où le PC était vraiment staliniste. Vous voyez.
Il y a un autre élément qui est assez amusant dans votre livre, alors vraiment, encore une fois, en étant prudent sur le déroulé de l'histoire, c'est que vous nous amenez quand même à entrevoir un personnage qui fait semblant, qui joue la comédie dans sa vie.
Absolument.
Et vous, est-ce que vous avez joué déjà la comédie dans votre vie ?
Non, je joue la comédie quand je suis payée. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Je suis très mauvaise pour mentir, je suis très mauvaise pour raconter des blagues, pour faire une blague. J'y arrive, mais bon, mauvais. Et je joue la comédie que quand je suis payée. Voilà, je mens pas, je suis mauvaise menteuse.
Non, parce que là, vous dites, en fait, c'était un peu comme... Voilà, quand, à l'époque où on disait il faut d'abord rentrer dans le système pour pouvoir le faire péter, il y a de ça.
Ce personnage-là a été introduit dans le au cœur du système et sous couverture. Mais je trouve ça, je trouvais ça intéressant. C'est comme dans les bouquins d'espionnage, il y a toujours le traître, c'est jamais celui qu'on attend, ou au contraire, l'allié n'est pas forcément celui qu'on attend non plus. Donc là, ce personnage de femme qui n'est pas si méchante, qui n'est pas du tout ce qu'elle apparaît, ce qu'elle donne l'air, c'était intéressant pour moi de faire ça.
Mais vous auriez pas pu ?
Non. Non, j'aurais pas pu. C'est extrêmement difficile de jouer un double jeu, extrêmement difficile. Et elle le fait parce qu'elle croit profondément dans ce qu'elle fait. Elle croit profondément que ce qu'elle fait est bien.
Et vous, en quoi est-ce que vous croyez profondément ?
Je crois profondément, je sais pas en quoi je crois profondément.
Quand on lit votre livre, on a l'impression que vous croyez quand même beaucoup à la nature, aux animaux, au respect, à la loyauté.
Oui, je crois à l'empathie. C'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Je crois, quand on voit des faits divers ou des faits divers où des gens se font agresser, que les autres regardent ou prennent des photos, on se dit, bon, on est mal barré. Hein, mal barré. Et puis, il y a des expériences qui sont menées dans des écoles du nord de l'Europe, dans les pays nordiques, où au lieu d'apprendre aux enfants de 4-5 ans à devenir des vainqueurs et à être en compétition avec les autres, on leur apprend l'empathie et l'acceptation des autres. Et le résultat, c'est qu'il y a beaucoup moins de délinquance. Ça a fait baisser la délinquance. Donc, si nous, on arrive, et on voit dans quelle société on est, surtout maintenant, une société extrêmement violente avec les faibles, femmes, enfants, c'est qu'il y a un problème au départ.
Voilà. Que votre livre est vraiment est quand même une grande réflexion aussi sur l'aspect très viriliste dans sa version la plus stupide du rapport au monde, quand même. Et est-ce que... Finalement, en écrivant ce livre, vous aviez besoin de raconter une forme de colère ou de désespoir, ou aussi de vous en amuser ?
Non, il y a aussi de l'amusement, parce que des personnages qui sont, même des personnages de méchants qui sont très drôles.
Donc, oui, c'est assez truculent.
Donc je me fous vraiment franchement de la gueule. Ou alors des personnages de... Moi, j'ai conçu mes personnages comme si je faisais un casting pour un film ou une série. C'est-à-dire qu'il y a tel va faire ça, et donc, automatiquement, je mets des visages. Et alors là, curieusement, moi qui adore les films d'action nuls.
Vous adorez les films d'action nuls ?
Ah, j'adore les films d'action, ça bagarre. Et alors, je me suis rendu compte que l'un des principaux héros, qui est le héros, hein, ça aurait pu être Jason Statham. C'est un mec qui ne dit pas un mot. Si vous avez vu des films avec lui, il gagne tout à la fin, il se bat comme c'est pas permis. Je me dis, putain, Jason Statham, il aurait pu faire un de mes héros, c'est-à-dire un mec qui... c'est toujours la même histoire. Hein. Un mec qui, au départ, passe pour un très méchant, mais qui a extrêmement bon fond.
Parce que vous aimez bien la rédemption, finalement. Vous aimez bien la possibilité que vos personnages deviennent meilleurs.
Ben, faudrait, oui. Dans la vie, c'est pas sûr du tout qu'ils deviennent meilleurs. Mais si on peut le faire quand on écrit ou quand on filme, voilà, faisons-le.
Donc, en fond, vous êtes très optimiste comme personne.
Moi, je suis plutôt optimiste, oui.
Vous avez parlé de cinéma. Votre livre, il est très visuel. C'est écrit comme des scènes. Ça pourrait être un scénario.
Ça aurait plaisir. Moi, j'écris je ne connais absolument rien à la montagne, je vous le dis. Mais je mens très bien quand j'écris. Donc, en tant que romancière, je suis une énorme menteuse, mais imparable. Donc, je dis, je connais la montagne. Voilà. Je connais pas la vie sauvage. Je connais la vie sauvage. Ben, ça, c'est mon métier d'actrice qui est payée pour mentir, finalement. Et là, là j'ai eu simplement à imaginer, à recycler des images que j'ai vues ailleurs. Tout le monde a vu des images des grands parcs nationaux. Tout le monde. Tout le monde a vu des images dans la neige, des combats, tout le monde a vu des animaux dans la neige. Donc, il suffit de recycler, de mettre dans la bonne catégorie et dans la bonne version de l'histoire. Voilà.
Pourquoi vous avez décidé de les mettre dans la montagne et pas dans la ville, puisque de toute façon, vos personnages sont dans un tunnel ?
À cause de l'aventure, à cause de l'appel de la forêt, à cause de ces bouquins que mon frère m'avait fait quand j'étais jeune. Voilà, l'aventure. L'aventure, c'est... Bien sûr, on peut faire l'aventure dans le métro, on peut faire l'aventure dans un truc, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est l'aventure, c'est automatiquement, avec un grand A, c'est automatiquement avec les éléments déchaînés autour de soi.
Il y a un autre élément qui raconte de votre enfance dans ce livre, c'est qu'au tout début, vous faites référence à votre frère, puis vous faites référence à un petit traité d'histoire et de géographie.
Oui.
Donc ça m'a amusée. Il y a une carte.
Voilà. Il y a une vraie carte. Là, c'est la vraie carte de ce qu'était la Louisiane avant qu'ils la vendent.
Mais alors, le fait d'avoir évoqué comme ça votre enfance, puisque vous parlez de l'école élémentaire, de votre frère. Vous étiez quel enfant, vous ?
Je sais pas trop. Je me faisais pas remarquer à l'école. J'étais normal. Je crois que je faisais pas grand chose de particulier. J'étais dans la moyenne la plus basique. Je dessinais plus ou moins. Je savais bien dessiner quand j'étais môme.
Vous avez arrêté ?
Bah oui.
Quoi ? Bah oui.
Bah oui, parce que j'étais pas assez bonne.
Ok, mais vous aimiez ça, dessiner ?
J'aimais bien dessiner, mais j'étais pas assez bonne pour en faire mon métier.
Et rester au bistrot avec vos parents et voir les personnages arriver ?
C'était amusant. C'est tellement plus amusant que d'avoir à manger avec ses parents tous les soirs. Hop là, pardon.
Donc de cette période-là, quel souvenir vous avez ?
Ah, j'ai des bons souvenirs de mon enfance, un souvenir de liberté, parce qu'on jouait sur le trottoir, j'ai des petits copains qui sont sur le trottoir, c'était à Saint-Ouen, donc on avait l'impression que c'était très grand le trottoir, parce qu'on était petits, et on pouvait jouer dehors, dans des cartons, et j'avais les soldats de plomb de mon frère aussi, qui m'avaient laissé, des trucs, donc j'ai des bons souvenirs, très bons.
Dans ce livre, on voit bien en fait que vous faites cette dystopie dont vous parlez, vous la faites aussi pour raconter un monde qui a complètement changé. Et en fait, vous nous mettez sur le chemin d'un monde qui ne va pas s'arrêter de changer.
Ah ben non.
D'une façon très violente et très agressive.
Oui, bien sûr.
Le monde d'aujourd'hui vous agresse ?
S'il m'agresse moi en agressant les autres, bien sûr, puisqu'on voit, je ne sais pas faire un petit cours de, je ne peux pas commencer à faire de la politique ou quoi que ce soit, mais il suffit de voir comment les extrêmes montent doucement, comment certains sont au pouvoir et ont tous les pouvoirs. Depuis que moi j'ai écrit ce bouquin, Trump a ordonné l'abattage des ours polaires parce que ça gêne les forages en hélicoptère, c'est plus sûr comme ça. Je ne sais pas si ça va se passer, mais en tout cas, c'est un décret. Il a aussi ordonné l'abattage des bisons en Montana, parce que ça gêne les forages, les bisons. Voilà. Donc, c'est le mal. Pour moi, c'est fou, parce que ce type-là est tellement l'expression du mal tel qu'on le voit représenté au Moyen-Âge. Voilà. C'est le mal incarné. Voilà.
Il y a, dans ce livre, un autre endroit qui est très important, c'est Terre Noire. C'est un autre espace dans lequel... là, vous nous racontez une société pareille qui a disparu, où il y a eu une époque des chercheurs d'or, des chercheurs de charbon, des chercheurs de cuivre et des prostituées.
Oui, alors ça, je me suis inspiré d'un endroit qui existe parce que j'ai été tourné au Venezuela, au fin fond du Venezuela où il n'y a aucun touriste, sur les hauts plateaux à la frontière du Brésil. Dans une ville qui n'existait pas au niveau sur une carte, c'était kilomètre 88, je crois. Et on l'appelait Las Claritas. On tournait un film pour enfants, un film d'aventure avec des Indiens et tout ça. Bref. C'était une ville qui avait été une ville minière, mine d'or. Des chercheurs d'or. C'est-à-dire qu'il y avait de l'or dans les rivières, Il n'y en avait plus. Donc, il restait quelques garimperos qui vendaient, qui cherchaient des petites pépites. Et le paysage était lunaire. C'est-à-dire l'eau, les bois avaient été contaminés par le mercure, c'était vraiment, tout était mort. Et le long, il y avait une rue, en terre battue, hein, donc quand il pleuvait, comme il pleuvait toutes les demi-heures, puis après ça séchait au soleil, c'était toujours de la boue. Il y avait une longue rue, bordée de maisons avec des tons tout ondulés. 10 ans auparavant, il y avait encore de l'or dans la rivière, il y avait 50 000 personnes dans cette ville, et il y avait 10 000 prostituées. Donc depuis, il y avait beaucoup moins, il y avait presque tout le monde était parti, les prostituées aussi, il n'y avait plus de clients. Il restait juste une boîte de nuit incroyable qui marchait jour et nuit dans la jungle, là, carrément, avec un générateur, parce qu'il n'y avait pas d'électricité courante. Et on rentrait dedans, c'était de la salsa en permanence, et on rentrait dedans, c'était tellement fort, ça faisait mal à l'estomac, le son. Et moi, j'ai vu des enfants dormir à l'intérieur, des mamies tricoter, et tout ça, tout le monde vivait normalement dans cette ambiance. Donc tout ça, j'ai recyclé ça. Et Las Claritas, il y a d'ailleurs un endroit qui s'appelle Las Claritas dans l'histoire, mais c'est un autre endroit plus positif. Et c'est devenu Terre Noire. Voilà. C'est devenu Terre Noire. Donc c'est pas l'imagination, vous savez, je l'enjolis.
On dirait un décor de ciné, hein, tel que vous le racontez.
Oui, ça peut être un décor de ciné, oui. Et la vie est un, vous savez, la vie est un décor de ciné quand on vient.
C'est vrai, vous avez l'impression
que... Ah ben oui, bien sûr. La vie est un décor de ciné. Il suffit de savoir comment on la regarde. Il suffit de savoir ce qui s'y passe. Si dans votre rue, il y a d'un seul coup, il y a un incendie qui fait 12 morts, c'est un décor de film catastrophe. Voilà.
Tout ce que vous le regardez avec le prisme du cinéma ?
Non. Non, je m'en sers là pour écrire quelque chose.
Dans ce décor, donc en fait, ces personnages, on a envie de les rencontrer. Ils sont très typés, ils sont très truculents. Il y a une femme vraiment avec une personnalité très forte quand le personnage de Percy arrive à Terre Noire. Je laisse au lecteur la joie de découvrir cette ambiance. Vous faites un lien prégnant entre la mafia et le pouvoir, quand même. Et notamment ces personnages puissants.
Oui, les personnages puissants. Donc c'est vrai que je prends une solution radicale pour m'en débarrasser.
Qui a un côté BD aussi, hein.
Oui, ce sont des personnages puissants, mais regardez par qui on est. Regardez par qui sont dirigées les plus grosses puissances du monde. Hein, ça pourrait être des mecs qui sortent d'une bande dessinée de Marvel. Hein, le Joker, par exemple. Il pourrait imaginer le Joker au pouvoir. Il ferait pas pire que Trump. Hein.
Ça veut dire que vous avez ce prisme-là, en fait, c'est quoi ? C'est une distance qui vous aide à continuer de pouvoir en rire un peu ?
Ah oui, il faut avoir... Sinon, si on n'a pas cette distance... Moi, je ne regarde pas les infos tous les jours parce que c'est extrêmement anxiogène, les informations. Je regarde des vidéos de chats. Ou de chiens. Ils sauvent un chien, un galeux, d'un seul coup, ça devient un chien super. Ça, c'est positif.
Sur le lien que vous mettez aux animaux, vous mettez aussi un lien qui est assez intéressant au sommeil. Il se passe pas mal de choses quand on dort dans votre livre. Hein, on oui. prend conscience de beaucoup de choses.
Donc, quand l'Indienne, Thomasa, elle, il faut qu'elle se mette dans une sorte d'état second, donc une sorte de semi-coma, pour arriver à faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire à pénétrer assez profondément l'esprit des autres ou l'esprit d'un animal.
Mais vous y croyez, vous, à ça, au fait qu'on puisse, à un moment donné, aller chercher dans notre mémoire quelque chose ?
Aller chercher dans notre mémoire quelque chose, oui. Le transmettre aux autres, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Mais... c'est quelque chose qui est intéressant, qui est un fantasme, c'est un rêve, de se dire on pourrait communiquer sans avoir à passer par les mots, quoi.
Ah oui, ça c'est un fantasme que vous avez.
Non, pas forcément, ça peut être désagréable aussi. Oh non, je savais pas qu'il pensait ça de moi.
Mais vous aimeriez bien lire, par exemple, ce que les autres ressentent ou pensent, parce que Thomasa, elle est assez fascinante pour ça. En fait, elle vous croise et tout d'un coup, elle vous scanne, elle sait d'où vous venez.
Elle voit. Oui, mais il y a aussi... C'est une femme qui a tout perdu. C'est ça qui était intéressant, qui n'a aucune raison de vivre, à vrai dire. Et finalement, si, elle a une raison de vivre. Sa raison de vivre, c'est d'aller à ce point précis, de donner ses graines, de rencontrer ses gens, leur redonner l'espoir, alors qu'elle a tout perdu. Donc, ce personnage qui a tout perdu a beaucoup d'humour. Voilà.
C'est un personnage... Là, vous traitez de l'intuition, quand même.
Elle a de l'intuition, c'est une chamane aussi. Moi, j'ai un ami qui habite aux États-Unis, qui vit un peu dans la nature aussi, qui s'occupe de bisons et qui élève des bisons blancs sacrés. Et il m'a dit, j'ai assisté à une scène extraordinaire. Il était avec un de ses amis indiens qui avait des moutons. Et là-bas, en Ohio, enfin dans un des États du Nord, enfin assez froid l'hiver, les moutons ne sont pas gardés par des chiens, mais par des lamas. Parce que les lamas pourraient se tuer. Ils pourraient se tuer pour défendre leurs moutons. Bon, il faut un lama. S'il y a deux lamas, ils se protègent entre eux, ils ne vont pas protéger les moutons. Mais un lama, et ça, un jour, je suis passé, j'ai vu effectivement des moutons et un lama. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout, le lama, parmi les moutons ? Le lama est un gardien de moutons extraordinaire.
Ah ouais ?
Ouais. Donc, il a ce pote, et il a dit, moi, je l'ai vu, on était avec lui dans son champ, enfin, qui donne dans la montagne, et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il voit arriver ? Un ours. Le mec était indien. Un ours. Oh. Et naturellement, le ours descend assez loin, mais le lama le repère et donc va au devant, puisqu'il va protéger les moutons. Et il se dit, putain, il va me bouffer, mon lama. Et éventuellement, les moutons. Alors, c'est lui qui me l'a raconté, je pense pas qu'il mente. Le type s'est approché assez près de l'ours et s'est mis à lui parler, dans son dialecte, dans sa langue. Et au bout d'un moment, l'ours est reparti. Et je lui dis, mais mon copain lui dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as dit à l'ours ? Qu'est-ce que tu as dit ? Il dit, écoute, je lui ai parlé dans ma langue et je lui ai demandé, s'il te plaît, je n'ai qu'un lama, s'il te plaît, je sais que tu as faim, mais évite de manger mon lama, s'il te plaît, je te demande. Voilà, c'est tout. Voilà. Et le mot, l'ours est reparti. Je ne pense pas qu'il m'ait menti, mais même s'il m'avait menti, je trouve que l'histoire est belle.
Voilà. Mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre de l'absurde, parce que là, dans votre livre, ce qui est drôle aussi, ce qui est réjouissant pour nous, c'est que en fait, ces résistants, ils sont 11 face à...
Ah oui, mais je crois que plus on... Il suffit d'une petite... Il suffit d'un petit grain de sable pour enrayer la machine. Il suffit d'une personne. Regardez ce qui s'est passé avec Jésus, il y avait un mec. Vous voyez où on en est ? Bon... un mec tout seul avec rien, tout seul d'un seul coup, ils étaient 12 au bout d'un moment. Voilà, c'est quand même incroyable.
Et ça dure toujours.
Avec 12 personnes.
Ça dure toujours.
Voilà, et ça dure toujours. Donc, faut pas s'étonner qu'un petit nombre de personnes puissent arriver à modifier le cours du moins de l'histoire. Voilà.
Et cette façon que vous avez de pouvoir rire des choses, d'avoir beaucoup d'humour, vous la devez à qui ?
Je sais pas. Je sais pas d'où ça vient.
Ouais.
Peut-être de ma grand-mère, mais pas, ou ma mère, je sais pas, mais elle avait pas tellement le temps de rire, la pauvre, parce qu'elle bossait beaucoup. Mais non, je peux pas dire pourquoi. L'humour, en général, ça commence quand on se fout de sa propre gueule. Bon, après, on peut se foutre de la gueule des autres. Donc, à partir de quel moment j'ai commencé à... Je sais pas.
En tout cas, la littérature a une grande place dans votre vie. Hein. Ça, vous le dites, vous l'avez dit plusieurs fois. C'est-à-dire que vous l'avez dit là à nouveau, petite, vous avez commencé par lire des bouquins, mais quand même au départ, est-ce que vous avez imaginé être plutôt d'abord un écrivain qu'une actrice ?
Ah non, moi j'imaginais rien du tout. Hein. J'imaginais juste pas avoir de patron. Hein. C'est déjà ça. On a toujours des patrons. Hein, c'est... Mais ça dépend lesquels, quoi. Ça dépend à quel niveau on a des patrons. On a toujours des patrons. Mais je ne voulais pas avoir le patron, parce que j'avais mon brevet. Et à l'époque, en 1965, parce que j'avais 15 ans, en 65, j'ai eu mon brevet. En 65, avec le brevet, donc ça voulait dire le brevet était quand même un examen qui avait de l'intérêt, on pouvait rentrer à la poste ou dans une banque nationale. Voilà. Maintenant, avec le bac plus 12, on arrive à peine à éviter la faute d'orthographe. Et donc, vous avez vu le ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Éducation nationale qui ne sait pas écrire. Enfin, c'est affligeant. Ça fait peur. Ça fait peur. Donc, moi, avec mon brevet, je pouvais rentrer dans une banque, mais je n'avais pas trop envie de rentrer. Ou je pouvais rentrer à la poste. Je n'avais pas trop envie de rentrer à la poste. Donc, je savais dessiner un petit peu et j'avais plutôt bien dessiné, mais pas suffisamment pour en faire vraiment métier. Mais enfin, je pourrais faire quelque chose avec. Je voulais faire du décor, du théâtre, des trucs comme ça. Puis, de fil en aiguille, moi j'ai toujours fait les choses par défaut. Donc, j'ai été refusé au concours des beaux-arts, des arts déco, parce que j'avais que le brevet. Voilà, il fallait avoir le bac, sinon on passait un autre examen où j'ai tout faux. Et donc, j'ai eu une copine m'a dit moi, je travaille, je suis dans un cours de théâtre. Je dis pas, c'est peut-être intéressant de faire du cours de théâtre, mais je sais pas ce que c'est que le théâtre. J'ai dû voir une pièce dans ma vie, donc elle me dit viens me voir, viens nous voir au théâtre, au cours de théâtre. C'est comme ça, hein. Sinon, j'avais pas pensé, je ne m'étais pas dit un jour je serais actrice.
Ouais. Vous étiez rien dit en fait, vous attendiez.
Je m'étais dit, je serais pas comme tout le monde, point. Voilà. Ça, je me l'étais dit, mais ça, c'est vaste, hein, pas comme tout le monde. On peut être serial killer et pas comme tout le monde. Hein.
Voilà. Vous y avez pensé à un moment donné ?
De quoi ?
À être serial killer ?
Non, je savais même pas que ça existait. Mais je savais même pas, non, mais je veux dire, pas comme tout le monde, c'est-à-dire avoir une vie différente. Je sais pas, c'était très flou dans ma tête d'enfant.
Hein. C'est quand même un truc que vous avez assez bien réussi, hein, finalement, de pas être comme tout le monde. C'est un compliment.
Oui, oui, mais bon, je pense que tout le monde n'est pas comme tout le monde. Chacun, voilà, donc c'est ça. Tout le monde n'est pas comme tout le monde. Il y a des gens.
Finalement,
on a des gens qui se démerdent mieux avec leur manque de chance. Moi, c'est mon manque de chance qui m'a sauvé la vie à chaque fois.
C'est vrai ?
Bah, à chaque fois qu'on me refusait un truc, il y avait un truc meilleur qui se posait à la place. Voilà. Donc, je trouve que c'était le manque de chance d'un côté, manque de bol d'un côté et chance de l'autre. Donc, c'était une balance.
Dans votre livre, il y a une scène aussi qui est assez forte. Pareil, je voudrais ne pas la dévoiler, mais quand même, vous évoquez le fait que finalement, tout le monde n'est pas tueur, même en le décidant. Tout le monde n'est pas violent, même en le décidant. Ça m'a fait penser au film Un simple accident, où en fait, sur cette histoire de vengeance et de vouloir, en fait, à un moment donné, faire le mal pour rendre le mal à des gens qui font le mal, c'est pas donné à tout le monde. Parce que c'est pas donné à tout le monde de tuer cruellement.
Non, parce que c'est une énergie folle. Je pense de se venger, c'est de venger, de la vengeance. La vengeance est quelque chose qui te bouffe l'énergie, énergivore. Enfin, ça te ronge l'idée de vengeance. Il y a un proverbe indien qui dit assieds-toi au bord de la rivière et attends de voir passer le corps de ton ennemi. En général, c'est ce que je fais. Et de temps en temps, il passe. Vous allez voir. Attends de voir passer le corps de ton ennemi. De temps en temps, on va passer effectivement, pas tout le temps. Mais en tout cas, c'est beaucoup moins stressant.
Non, mais c'est une idée que vous vouliez mettre dans votre livre, celle-là. L'idée que.
À quel moment ? Alors ça, je ne sais plus.
C'est vrai ?
Oui.
En fait, Percy, à un moment donné, a la possibilité de tuer gratuitement.
Bah oui, mais il va le faire quand même.
Ah, pas toujours.
Ah bah oui, mais ça le démange. Le problème, c'est que. Quand on a été habitué à tuer, c'est dur. J'imagine que c'est dur de s'en passer. J'imagine. Je vais être extrêmement prudente là-dessus, parce que je sais pas. C'est-à-dire qu'on a été habitué à tuer, donc lui, il a arrêté complètement. Et là, il a. Et
comme
là,
la clope, quoi. On a arrêté voilà. Complètement, on a quand même.
Et là, vous voyez, moi, j'ai arrêté la clope, je la vois qui est dans les chaussons quand même, voyez. Donc, il a la possibilité de tuer des très, très, très méchants et de sauver ainsi des personnes qu'il aime. Il va même pas se poser la question, il va y aller. Mais il est prêt à se sacrifier. C'est ça aussi qu'il sauve, c'est que Percy est quelqu'un qui, s'il va tuer, si ça marche pas, il sait qu'il peut mourir, mais il accepte toujours le risque fatal.
Mais donc, ça, c'est votre définition du courage. On le voit bien dans ce livre, hein, votre définition du courage, c'est celle de mettre de côté tout ce qui pourrait vous empêcher d'y aller. D'ailleurs, la seule fois où il est sentimental, il le regrette un peu, puisque cette jeune fille, ben, finalement, comme vous l'avez dit, hein, il la kidnappe. Mmh. C'est le début des emmerdes.
Oui, mais c'est même pour du sentiment. Il a aucune... C'est quelqu'un qui est lissé. Jason Statham. Oui. Pas un mot, rien. Pas un truc, il n'y a rien quand il joue. Je pense qu'à un moment donné, il se laisse aller, bien sûr. Mais il se reprend très vite, parce que c'est un espèce d'hyper viril. C'est un mec hyper viril dans un moment où il n'y en a pas besoin. Voilà.
Ça vous fait marrer ?
Oui.
C'est comme les films d'action ?
Les films d'action, certains films d'action me font rire parce que c'est très. C'est ça défoule. Ça défoule. Parce que personne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les bons films d'action, les types se mettent des peignées monstrueuses. Un seul coup dans la vie réelle et le mec est mort. Là, les types, ils s'en prennent et ils rebondissent et tout. Et pourquoi ? Parce que c'est dans le script. Voilà, donc, c'est ça. C'est ça, c'est ça qui est assez... Bon, c'est pas grave, finalement, c'est comme les dessins animés.
Et ce sera ma dernière question. Et votre livre, à vous, il a été défouloir ?
Il était fatigant. C'est un livre très fatigant parce que j'ai mis longtemps à l'écrire entre le moment où, du premier mandat de Trump et le second, vous voyez. Il s'est passé du temps. Bien sûr, j'ai fait des choses, j'ai fait des pièces, j'ai fait des films. Et en 30 ans, j'écrivais, puis j'arrêtais d'écrire parce que ça m'énervait. Le soir, je pensais, je me disais, bon sang, j'ai écrit 200 pages, je ne peux pas lâcher comme ça. Je ne peux pas lâcher mes personnages, ils sont coincés, là, qu'est-ce que je veux en faire? Bon, il y a un type qui est au fond d'une grotte, il est tombé dans un trou, comment il peut s'en sortir? Il n'a rien. Donc, c'est la nuit, il m'empêchait de dormir. Et puis, quand j'arrivais... Quand vraiment j'arrivais à m'en sortir et que j'ai repris le truc, parce que à un moment donné, je dis, je peux pas, il faut que je le finisse ce bouquin. 300 pages, j'ai encore des trucs à dire, mais quoi? Et les choses arrivent au fur et à mesure. Et puis, et quand on l'a fini, on est très content. C'est un accouchement, ça a accouché, voilà. Après, on va retravailler dessus un petit peu. Et puis après, on le fait lire. Moi, j'ai très peu de gens qui lisent autour de moi, donc je suis peinarde. Je fais lire à une de mes meilleures amies, à deux meilleures amies qui travaillent aussi avec moi. Et il y en a une qui me dit « Oh là là, j'ai envie de voir la suite. Hop. » Bon, je vais m'y remettre. J'ai envie de connaître la suite. C'est génial. Bon, et puis Lila, qui est mon agente et mon amie surtout, et qui me dit « Bon, allez, maintenant, c'est très bien, mais il faut continuer. Vas-y, donc c'est parfait. Continue. » Et ça se termine à 350 pages. Et épuisée. Et heureuse.
Mais on adorerait avoir le volume 2.
Mais oui, mais je suis en train de penser que je serai incapable d'écrire le volume 2 parce que justement, il n'y a pas de volume 2. On ne sait pas ce qui se passe.
On verra bien. Merci beaucoup, Josiane Balasco. Merci.